Christophe Bourgois-Costantini, que représente pour vous le CHO ?
Non, mais déjà, c'est que moi, j'ai été un entrepreneur absolument minable pendant des années, parce que j'étais dans mon ego, dans l'envie de réussir, que j'embauchais des gens à qui je confiais des missions, sans voir, en fait, que j'étais dans la projection de mes propres névroses et angoisses. Et c'est simplement à partir du moment où j'ai compris qu'est-ce qui était ma motivation profonde, que mon entreprise a été totalement transformée. Donc ça me fait toujours marrer. C'est très français, ça, on va mettre des cases. Voilà. Alors là, pour l'instant, c'est le Chief Happiness Officer. Peut-être dans 2 jours ou dans 1 mois, ce sera une autre case. J'ai rien contre, ça part d'un bon esprit. Mais encore une fois, tant qu'on ne changera pas le management en haut, on ne pourra rien changer en bas. Et que là aussi, c'est très français, ça. Je me souviens avoir fait une conférence au MEDEF. Il y avait la DRH d'une très grande banque, donc je n'ose pas dire le nom ici. Et donc, elle buvait mes paroles, machin. Puis à la fin, elle m'a dit, c'est formidable, je vais vous appeler, vous allez coacher mes équipes. Et j'ai dit, mais si on commençait par vous, madame. Donc, elle ne m'a jamais rappelé derrière. Ça, je ne suis pas trop étonné. Donc, oui, sur le principe, il faut des études. Il faut bien évidemment du travail, de la recherche. Je crois que ce que disait Spinoza, si je l'ai bien compris, ce n'est pas très facile, mais comme vous me corrigerez, parce qu'en plus c'est pour mon prochain livre, le plus important en fait dans tout ça, c'est qu'on ait nos propres Chief Happiness Officer. La joie de se découvrir soi-même. Putain, mais c'est génial, quoi. Quand vous parlez avec des gens, ils ne savent même pas ce qui les meut. Ils ne savent même pas d'où ils viennent, ce qu'ils sont, ce qu'ils aiment, leur fameuse intelligence dès la naissance. Et pour moi, ça, c'est la clé. C'est on s'en fout d'atteindre le but. Il faut juste le viser et travailler sur soi. Et la joie, c'est celle de se connaître. Et encore, et encore, et encore.
Oui. Et comment on la retrouve, cette motivation intrinsèque ?
Alors, effectivement, il y a eu 3 étapes dans la motivation. La première étape, lorsque nous étions Homo sapiens sapiens dans nos grottes, c'était « je dois survivre et me reproduire ». On peut appeler ça la motivation 1.0, si vous voulez. Après, il y a eu la motivation 2.0, c'est le taylorisme. Vous travaillez bien, donc vous avez des récompenses, vous êtes augmenté ou vous êtes viré. Donc ça, c'est vraiment la motivation 2.0. Et en fait, de nombreuses études aux États-Unis montrent que ça n'a plus aucun sens, que la seule motivation qui vaille et qui compte, c'est la motivation intrinsèque, donc au contraire de la motivation extrinsèque, c'est celle qui vous permet d'être heureux, mais de par vous-même, j'ai envie de dire. Et qu'on ne soit pas là avec un patron qui dit « mais t'es arrivé à 10h du matin, t'es reparti à 4h ». Sortons du quantitatif, encore une fois typiquement français, cherchons le qualitatif et cette motivation intrinsèque. Qu'est-ce qui vous rend heureux au travail ? Ce ne sont pas des formules, c'est presque pas un encadrement, c'est vous vis-à-vis de vous.
D'accord.
Mais je ne les opposais pas, je dis qu'il y avait un courant qui montre que la motivation qu'on pourrait appeler 3.0 est totalement actuelle maintenant. Malheureusement, entre les études sociologiques ou les recherches, comme le font ma voisine de gauche et vous, et la réalisation effective en entreprise ou dans la vie, il y a un gap encore très long. Donc il va nous falloir encore attendre des années pour avoir les outils pour, probablement.
Cela dit, Christophe, l'entreprise, le bien-être en entreprise est une chose. Est-ce qu'on peut trouver du bien-être sur un cours de tennis, puisque vous avez été le coach, vous l'êtes toujours peut-être.
Vous démerdez vachement bien pour me ramener à mon expérience avec Rafael Nadal.
Complètement, parce que c'est quand même une expérience sensible. Comment
Mais parce que Rafa est devenu un champion, comme beaucoup des champions que j'ai interviewés, parce que justement, d'une certaine manière, le tennis, il s'en fout. Il ne veut pas être champion, et c'est pour ça qu'il est devenu. Et sa motivation à lui, c'est de s'appuyer sur des intelligences multiples. Et effectivement, lorsqu'on a collaboré, je lui dis « mais tu ne regardes pas la balle ». Il me dit « mais non, je ne la regarde pas la balle ». Alors dans toutes les écoles de tennis, on va vous dire « regarde la balle ». Lui, il écoute le son et le rythme. Donc il va s'appuyer sur une expertise très éloignée de son cœur de métier. Mais François Pinault est devenu un des plus grands collectionneurs au monde grâce à son intelligence naturaliste. Thierry Marx est un des plus grands cuistots au monde grâce à son intelligence spatiale. C'est-à-dire que vous êtes venu au monde avec des aptitudes, des intelligences, mais vous l'avez totalement oublié. L'école, la performance, les parents, alors là, l'énergie transgénérationnelle, oulala, il fallait s'élever absolument, et si papa est ingénieur, bah, tu seras aussi ingénieur. C'est tout ça qui a fait qu'on s'est déconnecté de nos intelligences profondes. Mais la bonne nouvelle, je vous le garantis, hein, j'ai interviewé 550 personnes, vous êtes venus au monde avec 10 intelligences logées dans le cerveau. N'attendez pas pour aller les chercher. Et Rafa, il a une intelligence naturaliste hors du commun, il a une intelligence spatiale incroyable, et il a l'intelligence du corps. Pourquoi l'intelligence du corps? Ah, c'est pas le musclore qu'on connaît. Rafa, il s'est entraîné devant un miroir. Selon la technique de l'Actor Studio, il a engrammé ses coups au ralenti. Et je travaille actuellement avec un champion français qui est un Golgoth, qui balance que des pains dans les balles. Et je l'ai foutu devant un miroir et je l'apprends à jouer au ralenti, tout doucement, tout doucement. Le corps, c'est la clé.
Vous entourez, vous coachez aussi des personnalités politiques, c'est la même problématique?
Bien sûr, parce qu'il n'y a pas encore une fois une personne des villes, une personne des champs. J'ai actuellement un député qui ne devrait pas faire de politique, in fine, qui en a fait parce qu'il vient d'une très grande famille qui était dans la politique, mais en fait c'est un artiste. Et j'essaye de le reconnecter fondamentalement à ce qui fait de lui son bonheur, c'est-à-dire se connecter à cet art, à cette créativité qu'il a en lui. Mais pour l'instant, sans le savoir, il est dans le droit fil de papa. Vous savez, c'est simple, hein. Soit vous êtes dans ce qu'on vous ont dit vos parents, soit vous faites un 180 degrés et vous pensez être libre. Mais ni dans cette posture, ni dans celle-là, vous êtes libre. Ce qu'il faut, c'est aller chercher votre voix tierce.
Et tout à l'heure, en introduction, je citais le moteur patronal que représente mon ami Jean-Baptiste. Vous dites la même chose. Vous répondez à ma question en disant « Tout dépend beaucoup du patron ».
Je vois venir. Je vous ferai un prix pour du coaching. Mais non, pas tout, ça serait très simple, mais c'est vrai qu'on est toujours dans cette logique, l'autorité c'était les parents. Les parents disaient un truc, notre muscle depuis l'enfance c'est ça. Et en fait on se refoule dans les mêmes conditions qu'on ce qu'on a connu avec nos parents. J'ai pas encore eu un seul coaché qui n'avait pas un patron ou une patronne qui ressemblait à son père ou à sa mère, dans la manière de procéder. Et ça notre cerveau reptilien il aime, on a pris des baffes, on va chercher à s'en reprendre. C'est mathématique. Versus l'autorité. C'est le concept de répétition de Freud, hein, c'est pas moi qui l'invente. Mais ça, il faut en sortir. Le bonheur, c'est de dire aux ancêtres, à nos parents, allez, je le dis, fuck, ça passera plus par moi. Quoi. Toutes vos névroses, ça ne passera plus par moi.
Christophe, ça vous inspire quoi, toutes ces démarches relativement scientifiques, encadrées, rationnelles?
Elles sont extrêmement bienvenues, de toute manière. Il était temps qu'on comprenne un petit peu comment fonctionne l'humain, on le sait, et encore. Je sors d'une interview avec le professeur Saillant, l'Institut du cerveau et de la moelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne sait rien sur le cerveau. En fait. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Il y a encore plein de choses à découvrir. Et les premières initiatives et tentatives vont dans le bon sens.
Parce que ça, c'est un travail sur le cerveau.
Bah, quand même, le cerveau connecté au corps, bien sûr. Mm-hmm. Mais voilà, anima sana in corpore sano. Et pas cogito ergo sum. On est d'accord.
Vrai,
il n'y a pas d'un côté la tête, le corps.
Oui, oui.